Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif.
Est-ce que les gens ils sont venus parce qu'ils ont entendu parler ou est-ce qu'ils reviennent parce qu'ils ont aimé ? L'important, c'est de construire une clientèle fidèle. Quand je suis sûre de quelque chose, j'ai du mal à attendre pour que ça vienne. Une fois que j'ai fait tout le process et que j'ai réalisé que je voulais vraiment faire du chocolat, j'ai pas réussi à attendre 5 minutes de plus. Philippe Conticini qui m'a appelé pour me dire que c'était les meilleurs chocolats qu'il ait jamais goûté de sa vie. Pour plein de gens, ben, un gâteau, c'est un gâteau, tu vois. Ta vision, elle est claire, ton positionnement, il est clair, mais faut réussir à le transmettre aux équipes. J'avais pas assez réaliser que c'était pas hyper évident. Et je pense qu'une fois que t'as identifié que t'as une personnalité, il faut juste la mettre dans tes produits. Après, ça veut pas dire que les gens vont être réceptifs à ta personnalité, mais je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver entre je veux être derrière tout parce que c'est ma boîte, je veux essayer que tout soit parfait, mais aussi, il faut pas toujours que les gens ils aient l'impression que il y a quelqu'un derrière eux qui va vérifier tout ce qu'ils font.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hotel. Le Soli Hotel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon de Causse, et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon de Causse, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables avec des parcours très différents mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en collaboration avec le Soli Hotel. Et aujourd'hui, je reçois Jade Genin. Bonjour Jade, comment
Hello.
Tu vas ?
Ça va et vous ?
Très très bien, tu peux me tutoyer, on est dans un podcast. Je suis très très heureux de te recevoir. Jade, tu es chocolatière à ton compte, tu as une boutique rue de l'Opéra et j'ai très hâte d'échanger avec toi. Ma première question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi.
Au niveau familial ?
Au niveau familial, exactement.
Okay. On remonte au début. avec des super parents, donc très honnêtement je pense que j'ai manqué de pas grand chose. Ils ont toujours fait en sorte que je découvre plein de choses. Donc, par exemple, maman, quand j'étais petite, elle voulait toujours que j'aie une activité par jour. Mais sans le côté trop de pression à décorer. C'était vraiment plus pour m'éveiller et pour que je trouve ce qui me plaît plutôt que dans un objectif de surperformance. Donc, je dirais qu'ils ont toujours fait attention à ce que je m'ennuie pas et à ce que ma vie soit remplie de plein de choses.
Et à éveiller ta curiosité, j'imagine ?
Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, donc je sais pas, un jour je pouvais avoir poterie, le lendemain j'avais harpe et puis l'année d'après c'était de la danse ou de la gym, de l'équitation, vraiment juste pour découvrir ce qui existe. Et bien sûr, sujet très important de ma famille, la gastronomie, donc l'éveil gastronomique qui a été mené surtout par mon père avec un bon suivi de ma mère, donc de la même façon que maman faisait attention à ce que je fasse plein d'activités, papa il a fait attention très tôt à ce que je découvre les bons produits et les bons restaurants. Et dans l'un comme l'autre, je dirais qu'ils ont en moteur la qualité. Et ça, c'est quelque chose qu'ils m'ont transmis.
Tu te souviens de tes premières passions ?
Oui, ma première passion, c'était le patinage artistique.
Ouais, t'as donc commencé à l'âge de 3 ans.
100, ouais, c'est une des activités que j'ai commencé à 3 ans. Et après avoir fait 120 000 activités, à mes 10 ans, j'ai voulu passer en sport-études. Donc, c'est quand on a cours le matin et sport. Donc ça peut être patinage artistique, mais ça peut être n'importe quoi l'après-midi. Et j'ai fait ça de mes 10 à mes 15 ans. Après, à mes 15 ans, j'ai fait une petite crise d'ado, donc j'avais plus le niveau scolaire pour être en sport-études. Donc j'ai dû arrêter le sport-études, mais j'ai quand même fait des entraînements intensifs. Donc je patinais tous les soirs au lieu de patiner tous les après-midi. Ce qui faisait que j'avais un emploi du temps assez chargé, mais c'était chouette parce que ça donne vraiment, je trouve, à une enfance une autre dimension. Déjà parce que tu apprends assez rapidement à avoir des enjeux, enfin, que tu considères sérieux au moins, et du coup à travailler pour. Et aussi parce que dans cette même dynamique d'éveil, je pense que ça fait voir plein de choses à un enfant par rapport à un enfant qui serait à une école à un temps plein. Donc, très rapidement, tu vas partir sans tes parents à tes stages. Donc, tu as un peu une notion d'autonomie, mais tu as aussi une notion d'être avec tes amis, de profiter super jeune. Donc, ça, c'est chouette pour un môme. Et puis, tout ce que le sport apporte, donc le dépassement de soi, la rigueur, l'autodiscipline. Donc, ça, c'est super. Même si j'ai jamais voulu en faire mon métier, donc il n'a jamais été question que je devienne patineuse artistique. Moi, je l'ai toujours pris un peu comme ça pour la rigolade. C'est une super formation.
Ouais, ça crée les fondations pour la suite.
Ouais, tout à fait.
Et donc après, tu fais des études de droit.
J'ai étudié à la Sorbonne.
À la Sorbonne.
Ouais, à la Sorbonne. Super fac. T'es dans un cadre magnifique. Je pense que ça joue beaucoup. Je crois vraiment que l'esthétique de ce qui nous entoure, il peut avoir un rôle assez profond sur ta manière de percevoir le monde. Et du coup, j'étais dans ce cadre absolument fabuleux avec des gens super intéressants. On a la chance dans les universités parisiennes d'avoir des professeurs absolument géniaux. Donc, très intéressant. Je me suis pas posé de questions. J'ai fait mes études. J'ai adoré mes études. J'ai rencontré des gens absolument géniaux. Enfin, je parle de mes amis. Et du coup, pendant toute cette période, moi, j'étais très bien dans ce que je faisais. Je me suis pas du tout posé la question du chocolat. Donc, j'ai passé le barreau et j'ai commencé à exercer comme avocate pendant 2 ans. Et c'est plutôt quand j'ai commencé à exercer, donc c'est venu assez tard, que je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler dans le chocolat. Et comment je m'en suis rendu compte, c'est pas sorti de nulle part, c'est parce que mon père est chocolatier lui-même. Donc en fait, j'ai toujours eu ce monde autour de moi.
T'as baigné dans le chocolat.
Ouais, j'ai baigné dans le chocolat. Papa, il a une chocolaterie depuis que j'ai 4 ans. Avant que j'ai 4 ans, il était chef pâtissier à la Maison du Chocolat. Donc si tu veux, il y a toujours eu la gastronomie autour de moi et il y a aussi toujours eu l'entrepreneuriat autour de moi. J'allais très souvent à la chocolaterie, tous les mercredis après-midi quand j'étais jeune, j'allais à la chocolaterie, ça a été mes premiers boulots étudiants, donc pour me faire de l'argent ou juste pour aider mes parents pendant les périodes un peu chargées. Et du coup, il y avait toujours la chocolaterie un peu en background, mais sans que j'y prête forcément attention, parce que je pense que comme tout enfant ou jeune adulte, peu importe, on fait pas forcément attention aux choses qu'on considère comme acquis. Ou même à ses parents. On fait pas toujours attention à ses parents avant d'avoir 30, 35 ans et de voir qu'ils sont pas éternels, quoi. Donc, un peu la même approche. Et quand j'ai commencé à travailler et à plus du tout avoir de temps à consacrer à la chocolaterie parce que t'as beaucoup moins de vacances, t'as beaucoup moins de dispo, c'est là que j'ai ressenti un manque et que j'ai compris que je voulais pas que cet univers y sorte de ma vie. Et le seul moyen, c'était donc que moi, j'entre plus activement dans la chocolaterie.
Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience d'avocate?
C'est super parce que c'est très formateur. Ça apprend beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. De la même manière, je pense que, en fait, quand tu fais des études, c'est pas tellement le sujet qui est important, c'est plutôt la structure que ça donne à ta tête. Et je dirais que d'avoir prolongé cette expérience par une entrée dans le milieu professionnel, ça a fini ma formation. Et bien sûr, maintenant, ça fait, je sais même plus combien de temps ça fait, je crois que ça fait 5 ans que je fais plus de droit, ou 4 ans. Les gens continuent de me poser 19. Des questions juridiques, mais franchement, je sais plus quoi. Enfin, j'ai des vagues souvenirs, mais je suis plus du tout au niveau. Mais malgré tout, ça t'aide quand même, ça m'aide encore tous les jours sur comment m'organiser, comment gérer le stress. Le métier d'avocat, c'est un métier qui peut être très stressant. Et je pense que moi, ça m'a vraiment appris à gérer mon stress. Je suis pas quelqu'un qui stresse très facilement. Enfin, si, je stresse facilement, mais j'arrive à le gérer.
Et donc, au fil de ces 2 ans, tu commences à être en recherche de quête de sens, potentiellement?
Non, c'était pas une quête de sens, parce que j'adore ce que je fais, j'adore faire du chocolat, ça m'absorbe complètement, mais je dirais pas que ça a forcément plus de sens que le métier d'avocat. Je pense que c'est juste une question d'alignement et de trouver ce qui fait que tu te sens dans ton axe, en fait. J'aimais bien mon métier d'avocat, j'aimais bien mes études. Je pourrais pas dire que foncièrement ça a plus de sens. Parfois, ça peut en avoir même plus de sens que de faire du chocolat. Par exemple, les pénalistes, je pense que profondément, ça a plus de sens que de faire du chocolat. Bon, moi, en l'occurrence, je n'étais pas pénaliste, je faisais du droit des affaires. Donc, effectivement, on peut se questionner sur le sens, dans le sens où c'est une activité qui a trait au domaine économique. Mais bon, toutes les entreprises ont besoin de quelqu'un pour les
Bien
conseiller.
sûr.
Donc, c'était pas ça, c'était plus, ouais, trouver ce qui faisait que je me dis, bah, je suis à ma place. C'était vraiment ça.
À quel moment est-ce que tu switches?
C'était en 2018. C'était en 2018. C'était juste après que mon père il ait reçu la médaille de l'Ordre du Mérite Agricole. Et c'est toujours des moments assez émouvants. Et du coup, je pense que c'est ça qui a provoqué une réflexion sur le fait de me dire que je voulais que ça continue à faire partie de ma vie, en fait, et que même plus que ça, que je voulais que ça devienne ma vie.
Quand tu l'annonces à ton père?
Il m'a pas prise très au sérieux. Il a cru que je travaillais beaucoup quand j'étais avocate, donc je faisais des grosses, grosses journées, des grosses semaines. Et je pense qu'il a dû se dire que j'avais eu une semaine un peu trop chargée et que j'étais
Assez
pas très
dormi.
en forme. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu sorti de nulle part parce que ben, comme je disais, c'est pas du tout quelque chose à laquelle j'avais pensé. Dans ma famille, c'est assez drôle, alors que papa, il est artisan et que maman, maintenant, travaille avec lui. Au départ, ma mère est médecin, mais au départ, elle travaillait pas avec lui. Mais dans ma famille, il a jamais été conçu que je puisse ne pas faire d'études. Alors que on pourrait se dire qu'au contraire, c'est dans une famille où il y a des artisans que ça pourrait être plus ouvert au métier manuel. Ben, pas tellement, en fait. Moi, enfin, vraiment, j'aurais pas conçu ne pas faire des études, et même j'aurais pas conçu ne pas faire des études un peu tradies, droit, médecine, école de commerce. Du coup, je me suis pas du tout posé la question. Alors, papa, c'est un super artisan, et je dirais que la perception que j'en avais quand j'étais plus jeune, c'était plutôt, il a pu s'en sortir malgré le fait qu'il n'a pas fait d'études. Et du coup, je ne me voyais pas, moi, ne pas faire d'études. Donc, en fait, le questionnement, il est venu très tard et il est venu juste parce que j'avais envie de faire autre chose que ce que je faisais actuellement.
Je crois que le switch, il a été assez rapide.
Ouais.
T'as pas réfléchi
Ouais,
longtemps.
non,
Il s'est passé combien de temps entre le
je suis
moment
assez impulsive.
où t'as processé l'info dans ta tête et tu t'es dit, OK, let's go.
Bah, 3 semaines, je crois.
OK.
3 semaines, ouais. Je suis assez impulsive. Mais pas parce que je suis pas raisonnée, mais parce que quand je suis sûre de quelque chose, j'ai du mal à attendre pour que ça vienne. Donc, une fois que j'ai fait tout le process et que j'ai réalisé que je voulais vraiment faire du chocolat, j'ai pas réussi à attendre 5 minutes de plus. Donc, au début, j'avais dit, c'était en mai, je crois. Et j'avais dit à mon copain, bah, je vais démissionner en janvier. Pourquoi? Parce que dans les cabinets d'avocats, en janvier, c'est là où t'as le bonus. Donc, c'était la décision raisonnable à faire, quoi. Et en fait, j'ai vu mon boss passer dans le couloir. Je lui ai couru après et je lui ai dit, ouais, je vais faire du choco. Salut.
Ciao. Et est-ce que c'est pas sur les coups de tête qu'on prend les meilleures décisions?
Moi, oui. Moi, oui. Après, je pense qu'on peut pas faire une généralité, mais moi, oui, parce qu'en fait, les coups de tête sont pas vraiment des coups de tête. En fait, c'est parce que je partage pas forcément mes réflexions en amont. Je suis pas quelqu'un qui réfléchit bien à haute voix et à plusieurs. Donc en fait, je me tourne le truc dans ma tête pendant 24 heures sur 24, pendant plusieurs semaines. Et quand je formalise la décision à haute voix, et ben c'est que je suis sûre de moi. Et du coup, genre, dès qu'elle est formalisée, je la mets en œuvre. Mais bon, après, il y a mille et une façons de fonctionner.
Comment est-ce que ton entourage réagit? Parce qu'on a parlé de ton papa, mais ton entourage et tes amis à cette nouvelle?
Mes amis, très bien. Trouvaient ça sympa. Et puis tes amis, même super proches, finalement, en fait, ça reste un élément hyper extérieur à eux. Donc voilà. Maman, elle a pleuré.
De
Et
joie.
ouais, elle a pleuré parce que bah, je peux comprendre, mais d'un point de vue d'une maman, elle se disait, bon, elle est avocate, elle est dans un bon cabinet, elle gagne bien sa vie. C'est safe, c'est sûr. Il n'y a pas trop de prise de risque. Alors que là, elle s'est dit, en vrai, t'en as jamais parlé. Donc ça, pour elle, ça sortait un peu nulle part, ce qui était vrai. Tu vas beaucoup moins bien gagner ta vie. Tu sais, tu sais pas si tu seras particulièrement doué ou pas. Donc elle stressait un peu. Et mon copain, il a pas compris pareil la rapidité de la décision. Donc il a beaucoup voulu que je prenne plus de temps de réflexion, ce que j'ai pas fait. Mais je pense que maintenant, avec du recul, enfin, il y a pas du tout de débat. Il voit bien que je suis beaucoup beaucoup mieux dans ce que je fais que.
Donc tu quittes ton job d'avocat et ensuite tu pars travailler et te former auprès de ton papa.
Ouais, c'est ça. Donc il y avait déjà pas mal de choses que je savais parce que tout simplement à force d'observer, de venir aider, sorte de soft skill pour le chocolat quoi. Donc j'ai travaillé avec papa. Je me suis pas vraiment posé la question de travailler ailleurs parce que papa il est dans les meilleurs artisans de France dans ce qu'il fait. Donc il y avait aucune raison que j'aille me former ailleurs. Et puis mon objectif au début, c'était de reprendre la chocolaterie de papa. Du coup, c'était vraiment pas la peine d'aller faire un tour ailleurs. Du coup, je vais me former avec papa, qui a pas été hyper accueillant, mais je pense que c'est normal, c'est un peu son caractère, un peu ancienne génération où faut faire ses preuves, faut un peu en baver, quoi.
Ouais.
Mais c'est cool, parce que du coup, j'ai eu une super bonne intégration dans l'entreprise. Parce que comme il n'était pas tendre, il n'y avait pas du tout de côté favoritisme ou autre. Donc, ça permet aussi une meilleure intégration dans l'entreprise parce que ce n'est pas toujours facile. Déjà, je n'avais pas le même âge qu'eux parce qu'ils commencent à travailler beaucoup plus jeunes. Je n'avais pas le même parcours. Donc, il y a plein de choses qui ne nous réunissaient pas. Je n'avais pas eu les mêmes études, les mêmes amis, les mêmes expériences pro. Et j'étais la fille du boss. Donc, si tu veux, au départ, tu n'es pas forcément positionnée pour...
Ouais, t'as potentiellement du jugement.
Ouais, voilà.
Ouais.
Donc au final, c'était un mal pour un bien parce que c'est super bien passé et franchement, c'était chouette. Donc j'ai une progression super rapide parce que je connaissais déjà beaucoup de choses.
Puis tu dois d'autant plus faire tes preuves pour le coup.
Ouais, et en plus, je suis quelqu'un de très bosseuse, ouais. Donc j'en faisais beaucoup pour apprendre rapidement. Et puis, il y a aussi, dans le métier manuel, même si ça paraît pas, il y a aussi une grosse part d'organisation qui te permet d'être bon dans ton travail. L'artisan, c'est pas que celui qui est doué de ses mains, pas du tout. Et je pense que ça, justement, d'avoir fait un parcours en droit, ça fait que, ou en autre chose, mais en tout cas, d'avoir fait des études un peu plus poussées et d'avoir exercé comme avocate, ça fait qu'il y a toute une partie organisationnelle qui a été maîtrisée en un mois, tu vois. Ce qui peut prendre un peu plus de temps quand tu commences à bosser à 16 ans, que t'es jeune, que... Donc, j'ai progressé hyper vite. Et au bout de un an, j'étais en charge de l'équipe de chocolaterie chez papa.
Donc, tu restes 3 ans avec ton père.
Oui.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette expérience, finalement?
Bien sûr, ça m'a permis de me former. Ça m'a permis quand même, avant d'ouvrir ma boîte, d'avoir un bon aperçu de ce que c'était. Parce que la boîte que j'ai ouverte, c'est le même business model que celle de papa. Et en étant en charge de l'équipe de chocolaterie, et ça débordait un peu sur tout ce qui était administratif, parce que par exemple, maman, quand elle avait besoin que je l'aide sur des papiers, je l'aidais ou des choses comme ça. Ça permet d'avoir une première approche quand même de ce que ça va être de gérer une entreprise. Sans être toute seule. Donc ça, c'était chouette. Ça m'a permis aussi de gérer une équipe, parce que quand t'es avocate, tu gères pas d'équipe. Enfin, tu peux avoir un ou deux stagiaires.
Ce qui est un autre métier. Hein,
ouais. Ah oui, complètement.
Le fait de manager.
Complètement.
Comment est-ce que tu passes aussi à manager?
Je pense qu'il faut quand même... évidemment, il y a des gens qui vont être plus doués naturellement pour manager ou pas, mais je pense qu'il faut quand même... se remettre un peu en question quand on fait du management. Ça s'est pas fait trop difficilement. J'essaye de toujours donner un cadre aux gens qui travaillent avec moi pour que eux sachent où ils vont. Parce que déjà, si eux, ils savent pas où ils vont, ça crée tout de suite un peu un truc nébuleux et tout le monde est perdu. Et toi, t'as l'impression que c'est le bordel et ça crée des tensions. Donc déjà, j'essaye de toujours mettre un cadre. Je m'énerve jamais. Jamais, jamais. Ça veut pas dire que je suis pas exigeante, hein. Mais dans ma façon de fonctionner, j'ai pas forcément besoin de m'énerver pour expliquer les choses. Et ce à quoi j'essaye de faire attention, c'est toujours de me dire est-ce que j'ai été compréhensible, lisible. Est-ce que mes employés vont se dire qu'ils sont bien où ils sont, parce qu'en fait, bon, on est quand même dans une période où il y a beaucoup de turnover dans tous les domaines. Les gens, déjà, si tu as quelqu'un qui reste 3 ans chez toi, tu es content. Ce qui, d'un point de vue employeur, est hyper pénible, on ne va pas se mentir, parce que en fait, tu passes ton temps à former des gens. Mmh. Et former des gens, c'est super long. Donc, quand même, ton objectif en tant qu'employeur, c'est que les gens y restent le plus longtemps possible. Et pour ça, je pense qu'il faut que les gens, au-delà d'être bien traités, parce que ça, c'est la base, faut qu'ils se sentent dans un environnement, faut qu'ils se sentent autonomes et mis en charge. Donc, je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver entre je veux être derrière tout parce que c'est ma boîte, et du coup, je veux essayer que tout soit parfait. Mais aussi, il ne faut pas toujours que les gens ils aient l'impression qu'il y a quelqu'un derrière eux qui va vérifier tout ce qu'ils font. Donc, je pense que l'équilibre, c'est ça. Et puis après, moi, j'essaye aussi, par exemple, sur les congés, sur les absences justifiées, hein, d'être assez flex, parce que les gens, ils cherchent beaucoup à balancer vie privée, vie publique, mais vie pro, vie pro plus qu'avant. Ce que je peux comprendre, hein, surtout dans les métiers comme on fait, c'est pas forcément des métiers super rémunérateurs. Donc autant, tu vois, quand j'étais avocate, je gagnais super bien ma vie. On te dit, tu bosses jusqu'à 23 heures, t'as une compensation. Après, à toi de juger si la compensation financière, elle vaut quelque chose pour toi, tu vois. Mais si t'estimes que oui, il y a une compensation. Dans les métiers de la restauration, la compensation financière, elle est petite, tu vois. Mmh. Et donc on peut dire, oui, mais c'est des métiers de passion. Ça, c'est limite.
Ça suffit pas.
Ouais, ça, c'est limite. Du coup, j'essaie aussi d'être flex quand ils me disent, bah, tel jour, je sais pas, j'ai mes parents qui sont à Paris, est-ce que je peux ne pas venir? Est-ce que. Tout en gardant l'organisation de l'entreprise, mais je pense que c'est ces équilibres-là qu'il faut trouver et qui sont pas faciles.
Donc, ces 3 années, elles te donnent finalement les meilleures bases pour entreprendre.
Ouais.
Tu quittes la société de ton père en juillet 2022.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu quittes ce job au moment où tu te lances?
Alors, j'avais commencé sur mon projet en avril 2022. D'avril à juin, j'ai fait des recherches de local parce que je voulais donc une boutique avec un atelier qui soit adjacent dans le centre de Paris. Donc, au début, j'ai visité tous les locaux disponibles dans le centre de Paris. Et une fois que j'avais trouvé le local, j'ai quitté chez papa pour faire tous les travaux. Donc, il y a eu des travaux assez longs. Il y a eu 5-6 mois de travaux. Réfléchir à ma gamme, faire les essais, chercher les financements bancaires. Enfin, tout ce qui est préparatoire, en fait, à l'ouverture. Donc, en fait, j'ai fait ça de juillet à novembre. Et en novembre, on a ouvert. Enfin, j'ai commencé en avril.
Qu'est-ce que ça t'a fait d'ouvrir cette première boutique?
J'ai pas encore eu trop le temps de prendre un peu de recul pour réfléchir
c'est
à ce
très
que
récent,
ça
parce que ça s'est lancé en novembre 2022.
Ouais, fin novembre 2022.
Ah, donc c'est hyper récent au final.
Récent. J'ai pas encore eu trop de temps de recul, et de toute façon, je pense que moi je voyais pas l'ouverture comme un achievement en soi. Donc pour moi, le prochain step, il est, enfin, je ferai le point au bout de la 3e année, si ça marche, si ça a progressé, où ça en est à ce moment-là. Pour moi, le fait d'ouvrir en soi, c'est pas tellement
un achievement.
Fou, ouais, non.
Ok.
Non. Bon, alors bien sûr, faut les obtenir, tu vois. Mais bon, moi, j'ai fait un financement bancaire. J'avais mis des sous de côté quand j'étais avocate. Et du coup, pour moi, la période de l'ouverture, hein, trouver le local, faire les travaux, mettre au point ta gamme, c'est presque comme quand t'es petit et que tu joues à un truc, tu vois, t'as l'argent que la banque elle t'a donné, faut le dépenser, ouais. Tu vois, c'est pas du tout le plus compliqué, en fait, dans l'histoire. Le plus compliqué, il est quand tu commences quand t'ouvres, ouais. Et après, faut faire déjà la première année, voir s'il y a un peu de répondant, si tu vas pouvoir boucler ta première année. Et une fois que la première année est passée, il faut voir si les autres années passent aussi.
Comment est-ce que tu as trouvé ton style? Parce qu'on sait que les chocolatiers ont tous, entre guillemets, leur style.
Oui.
Moi, je sais que tu fais des petites pyramides en chocolat.
Oui.
Comment est-ce que tu as défini ton style en chocolaterie?
Je pense que c'est juste une question moi, enfin, pourquoi j'ai voulu ouvrir, c'est parce que je voulais faire d'autres produits que ce que papa proposait. Et quand je réfléchissais aux produits, je voyais que leur ADN, il n'était pas aligné avec celui de papa. En d'autres termes, qu'ils avaient une personnalité. Et ceux de papa aussi, mais en tout cas, il y avait deux personnalités différentes. Et je pense qu'une fois que tu as identifié que tu as une personnalité, il faut juste la mettre dans tes produits. Après, ça ne veut pas dire que les gens vont être réceptifs à ta personnalité, mais juste, il faut essayer de la mettre un peu sur le tapis. Donc, ça se fait hyper naturellement. J'essaye juste de traduire un univers qui me plaît dans le chocolat, ce qui n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des choses que je veux faire que je n'arrive pas à faire. Et inversement, il y a des choses que je fais auxquelles je n'avais pas pensé, mais finalement, c'est bien sorti.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y a un peu de réussir à mettre ses tripes sur la table. Et puis après, beaucoup de travail, parce qu'il faut faire 150 essais, 150 ratés. Et comme c'est une entreprise et pas... Enfin, c'est une entreprise artisanale et pas un métier d'art, il faut aussi avoir en tête le côté rentabilité. Alors moi, c'est pas ce qui me drive le plus. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je fais pas attention qui sont une aberration financière. Par exemple, je regarde jamais le prix de mes matières premières parce que je veux pas avoir à transiger sur la qualité de mes ingrédients. Mais en soi, je sais que c'est pas forcément bien. Et ça veut dire aujourd'hui, il y a vraiment des produits, je sais pas combien je les paye. Donc ça, normalement, c'est pas bien du tout. Mais j'essaye, par exemple, de pas être drivée par ça. Ce que j'essaye plutôt, et ça revient même, parce que dans une entreprise artisanale, ça compte, c'est que ce que je réalise, que ce que je veux qu'on réalise, soit facile, entre guillemets, facilement, bien sûr, avec des gens à qui on a transmis le savoir-faire, mais qui soient reproductibles et dans une durée raisonnable. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple de Amaury Guichon, tu vois qui c'est ou pas?
Oui, voilà. Je le vois sur TikTok.
Voilà. Et ben, ce qu'il fait, c'est assez impressionnant d'un point de vue technique. Maintenant, si tu le fais, par exemple, si nous on le faisait, c'est une pièce qu'on va vendre 4000 euros.
Ouais.
Ça prend une semaine. Gustativement, c'est pas bon, mais ils s'en foutent, c'est pas ça qu'ils cherchent.
Ouais, c'est l'effet waouh.
Et tu vas vendre ça 4, 5, 6 000 euros. Je sais même pas, en fait. Ça dépend le temps qu'il met à le faire. Mais bon, ça met plusieurs jours. Et donc ça, par exemple, dans une entreprise artisanale qui vend ses produits, c'est pas possible. Donc il y a des choses, c'est pas que tu sais pas les faire, c'est juste que ben, ce serait pas rentable. Mmh. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et ça, je pense, c'est assez contraignant. Il y a aussi le côté dans le chocolat où même si nous, moi, je le travaille comme un produit frais, donc des produits naturels, pas de conservateurs, pas de texturants, pas d'additifs. Pour les gens, c'est pas un produit frais. Donc tu vends un chocolat, tu leur dis comme une pâtisserie, il faut le manger demain, sinon il est plus bon, personne va te l'acheter. Mmh. Donc je suis plutôt drivée par ça, essayer de faire des produits qui se conservent un minimum et qui sont réalisables par d'autres personnes que moi et dans un temps donné. Donc dans le processus créatif, il y a ça qu'il faut prendre en compte.
Comment est-ce que tu vois le lien avec ton métier et les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que ces dernières années, ces métiers ont explosé sur les réseaux, bah notamment
ouais,
avec Cédric Grolet, etc.
Complètement.
Comment est-ce que tu vois justement l'apport des réseaux sociaux pour ton métier? Alors, pour la mise en avant
peut,
du,
oui,
de ton savoir-faire.
Je pense qu'il peut y avoir un super potentiel. Après, comme tout, c'est un outil qu'il faut utiliser de manière juste. Et pareil, je pense avec sa personnalité. Donc Cédric Grolet, par exemple, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et c'est d'autant plus incroyable que c'est lui qui a lancé ce mode de faire que maintenant, on voit partout. Les gars qui te font des recettes XXL et qui croquent dans leur truc à la fin, maintenant, elle a 100 millions.
C'est clair.
Mais au départ, c'est son identité. Donc, il a réussi à trouver son identité, à avoir une croissance qui, je pense, est assez organique parce que quand tu regardes son nombre de likes et son nombre de followers, c'est hyper cohérent. Alors que maintenant, t'en as 150 000, ils ont, je sais pas, 10 000 followers et ils ont 50 likes. Bon, là, tu sais que, tu vois.
C'est pas bon.
C'est pas bon. Cédric Grolet, en plus, il fait très peu de partenariats. Donc, c'est vraiment grâce à sa patte, tu vois. Mmh. Et ça, je trouve ça top. Mais quand c'est fait comme ça, il y en a plein. Ouais, je te dis, ceux où tu vois que manifestement, ils ont acheté des followers ou qui se contentent de reproduire un format qui marche, je trouve ça un peu moins impressionnant. Après, ça peut permettre de booster un peu ton nombre de followers. Mais ça, en soi, moi, c'est pas un objectif. Je suis pas Instagrammeuse, donc avoir beaucoup de followers, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir quelque chose, ben, comme Cédric Grolet, c'est-à-dire trouver une méthode qui fonctionne pour moi et qui fait que j'ai une communauté, mais pas juste bidon, mais de gens qui se disent « putain, je veux acheter des chocolats là-bas ».
Et puis une marque reconnue pour la qualité de ses produits, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Après, il faut trouver son identité, donc ça, moi, je pense que je l'ai. Ce que j'ai pas, pour l'instant, c'est peut-être le temps ou la bonne personne pour m'aider sur le sujet, parce que bon, aujourd'hui, en plus, c'est pas mal les vidéos qui boostent l'algorithme. Et ça prend beaucoup plus de temps, en fait, que de faire une jolie photo. Et il faut trouver quelqu'un et qui peut t'aider sur le plan technique de faire la vidéo d'un. Et aussi qui soit un bon DA, enfin, un bon directeur artistique. Parce que moi, c'est pas mon métier. J'ai pas forcément des super idées de vidéos. À part que je sais un peu ce que je veux ou ce que je veux pas. Mais en gros, il me faudrait quelqu'un qui me propose des choses. Et ça, quand t'es une entreprise qui commence, trouver quelqu'un, en tout cas, enfin moi en tout cas, trouver quelqu'un qui me fasse des propositions, qui me donne envie, ouais. J'ai pas encore trouvé le bon équilibre budget personne.
C'est normal, t'es au début de ton aventure aussi, ouais. ça viendra avec le temps.
Ouais.
Sur les premiers mois d'ouverture, comment ça se passe? Est-ce que les gens du coup sont réceptifs?
Bah pour l'instant ça va, ouais. Pour l'instant les gens sont réceptifs. Après moi je suis toujours assez pas négative, mais je vois toujours le verre à moitié vide parce que je préfère être préparée que me dire « Ah, c'est trop bien, ça marche, il y a du monde. » Donc, oui, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal pour une ouverture. Après, moi, j'attends de voir si les gens... si, comme je disais tout à l'heure, si c'est stable dans le temps. En gros, est-ce que les gens, ils sont venus parce qu'ils ont entendu parler ou est-ce qu'ils reviennent parce qu'ils ont aimé? Ce qui n'est pas du tout pareil. Parce que tu peux potentiellement éclater la première année parce que tu fais un gros buzz médiatique et que les gens ne reviennent pas. L'important, c'est de construire une clientèle fidèle. Donc ça, faut que j'attende le temps, en fait. Faut que j'attende de voir avec le temps. Donc pour l'instant, même si c'est pas mal, c'est pas un truc qui me satisfait en soi, comme l'ouverture.
C'est quoi tes objectifs futurs?
Alors, court terme, bah, je veux un truc stable qui fonctionne bien. J'aimerais bien. Bon, j'ai des objectifs de chiffre d'affaires, hein, mais j'aimerais bien les atteindre. Moyen terme, je vais reprendre aussi la chocolaterie de papa. Donc, quand il ira à la retraite ou qu'il en aura marre. Donc là, il y aura deux entreprises à gérer avec deux identités distinctes. Donc ça, c'est chouette. Ça va être un petit défi, mais c'est chouette. Et après, dans mes objectifs que je ne sais pas si je vais faire, mais que j'aimerais bien ouvrir une boutique à l'étranger plutôt qu'une autre boutique en France.
Ok, donc une belle roadmap.
Ouais, j'aimerais. Après, on ne sait jamais ce qu'on fait. Mais...
Bien sûr, mais c'est bien aussi d'avoir des objectifs.
Ouais.
On va pouvoir passer à la partie bilan de ton aventure, même si elle est finalement assez récente. C'est quoi le moment qui a été le plus difficile pour toi? Dans cette aventure au global,
alors c'est pas un moment précis, c'est les jours où t'as pas trop de monde. Alors moi en plus l'atelier il est derrière la boutique et on ouvre à 11h, donc je vois tout depuis l'atelier. Moi je suis que à l'atelier, mais je vois tout ce qui se passe dans la boutique. Et si à 11h20 il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans la boutique, je suis en drama queen total. Donc je pense, alors que peut-être qu'après ça va être une super journée, mais c'est hyper dur quand il n'y a personne dans la boutique. Je trouve que c'est horrible, ouais. Même si ça dure 10 minutes et tout, mais sur le coup je suis vraiment
Ouais, parce que t'es quand même sur un métier où tu vois les clients en physique.
Ouais, ouais, ouais.
Donc t'as besoin de les voir, quoi.
Ouais, j'ai besoin de voir qu'ils sont contents. À chaque fois, si je passe en boutique, tu sais, ils font, je demande aux gens qui travaillent avec moi en vente de faire goûter les chocolats parce que je trouve que les produits dans l'alimentaire, bon, ça peut être beau, mais surtout par le goût que ça passe. Et
ce qui va faire que la personne, elle va revenir en acheter, potentiellement en offrir.
Enfin, ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est important. Et à chaque fois que je passe dans la boutique, au moment où ils font goûter quelque chose, après, je fais, ils sont bien aimés. À chaque fois. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. Bah, en fait, t'as l'impression que c'est la mesurabilité directe de si ça marche ou pas. Donc, je pense que le plus dur, c'est ça. Il faut prendre un petit peu de recul, je pense, par rapport à ça. Parce que le commerce, c'est tellement pas prévisible Il y a des journées où tu vas cartonner, tu sais pas pourquoi, d'autres où ça marche moins bien, alors que c'est un samedi, que normalement samedi c'est ta meilleure journée. Donc je pense qu'il faut réussir, mais c'est pas facile, hein,
Oui, il y a un vrai côté
à lisser
aléatoire
ses
aussi.
émotions. Ouais, complètement. Complètement. Et puis, bon, nous, c'est vrai que le climat social, il a été assez agité cette année. Bah, ça joue directement sur les commerces. Peut-être pas tous, hein, mais je pense si tous, en
Si,
fait.
si, ouais, je pense, ouais.
Et du coup, il y a aussi les périodes comme ça où il faut réussir à se dire, bon, c'est pas grave.
Ouais, relativiser.
Ouais. Donc, c'est plutôt
Puis
ça.
ça fait partie du jeu au final. Hein.
Ouais, c'est ça. Bah, surtout à Paris.
Si tout était incroyable, ce serait trop facile. Et tout le monde le ferait.
Ouais, c'est vrai.
Ma deuxième question bilan, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure?
Alors, c'est un petit petite chose, mais c'est Philippe Conticini qui m'a appelé pour me dire que c'était les meilleurs chocolats qu'il ait jamais goûté de sa vie.
Ok.
Ça, j'étais
Trop bien.
j'ai une petite
Ouais, ça
ouais.
fait plaisir de...
Ouais, parce que même si papa est tout aussi brillant et reconnu que Conticini, tu sais, c'est tes parents, tu vois.
Ouais.
Tes parents, quand ils te disent que t'es beau, tu vois.
Quand t'es validé par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur, c'est vrai que ça a
Ouais.
beaucoup plus de
Oui,
valeur.
c'est ça. Et puis là, en plus, je le connais pas du tout, hein. Donc, qu'ils prennent le temps de m'appeler pour me le dire, et j'ai trouvé ça,
Ouais, c'est gentil de sa part.
ouais, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai pas répondu grand-chose. Ah, merci. Mais non, j'étais franchement, ça, j'étais trop contente.
Trop bien.
Ouais.
On va pouvoir passer à la partie rencontre, mindset et vie perso, avec quelques petites questions. La première, c'est, alors je sais que des rencontres, on en a plein, on en a des centaines, mais est-ce que tu veux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure?
Ben, je dirais. Donc, c'était quand je travaillais chez papa. Et il a eu une apprentie qui s'appelle Emma, qui n'est pas restée longtemps chez papa, mais qui maintenant bosse avec moi. Et je pense qu'au quotidien, en fabrication, c'est la personne sur laquelle je me repose le plus, en fait. Et c'est pour l'instant la seule personne où j'ai 100% confiance. Et c'est hyper important parce que moi, j'ai pas d'associé. J'ai pas de financier dans le sens où, oui, je suis financée par une banque, mais j'ai pas de financier actif. Donc, en fait, il y a personne qui m'aide. Et du coup, le fait de savoir que tu as quelqu'un en prod avec toi sur qui tu peux compter, qui fait attention, qui est impliqué, c'est hyper important. Donc, je dirais que pour l'instant, c'est elle, ouais.
C'est quoi pour toi le plus important dans le fait de créer une chocolaterie?
Pour moi, parce qu'il y a 1000 façons de
Bien
concevoir le
sûr.
chocolat, pour moi, le plus important, mais dans tous les métiers alimentaires, c'est d'avoir à cœur de faire un produit de qualité, quoi. Après, si on prend plus sur le côté business, le plus important dans le fait de créer une chocolaterie, peut-être que c'est de bien identifier la charge financière de départ, parce que c'est un peu plus lourd qu'un restaurant ou une boulangerie. Tu as des équipements qui sont assez pointus, même pour une chocolaterie artisanale, hein, je veux dire, et dont les coûts montent très rapidement. Par exemple, enfin, no notamment, hein, tu vois, tu as une machine, c'est des tempéreuses que genre tout chocolatier doit avoir. Tu ne peux pas avoir une chocolaterie sans ça, c'est pas possible. Et ça commence à 30 000 balles.
Ouais.
Donc ça, c'est un point à avoir en tête. Et je pense que, enfin, maintenant tu me diras, il y en a de plus en plus, mais je pense que c'est pour ça au départ qu'il y avait moins de chocolateries qui s'ouvraient et que maintenant. Les chocolateries qui s'ouvrent, c'est plutôt des gens qui ont déjà une certaine renommée. Ducasse ou des chefs assez connus portés par des groupes hôteliers, des choses comme ça, parce qu'en fait, ils ont un appui financier qui n'est pas facile à avoir. Alors, moi, tu vois, par exemple, j'ai eu la chance de faire mon métier d'avocat, d'avoir eu le temps de mettre des sous de côté. Mais pour être totalement transparente, tu vois, moi, j'avais mis de côté 100 000 euros. C'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière assez facile. Et notamment quand on a des parcours qui commencent dans la restauration directement. Parce que Bon, ouais, je mets de côté la période où tu es apprenti, où tu gagnes que dalle. Mais même après, quand tu commences à bosser, c'est des gens qui gagnent entre 1200 et 1800 par mois. Généralement, je ne parle pas des gens qui sont chefs, mais je parle au départ, tu vois. Donc, mettre suffisamment de sous de côté pour ouvrir ta boîte, c'est pas facile. C'est vrai que c'est un peu une barrière à l'entrée au début pour...
Ouais, dans ces métiers-là.
Ouais, mais c'est pour ça qu'après, tu as des Ducasse, des Aleno, le Bristol et tout, qui ouvrent leur chocolaterie parce que tu n'as pas le même support financier derrière.
Ouais, ok. Ma dernière question avant de passer à la dernière partie du podcast, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso ?
Comment je les relis ?
Ouais. Est-ce que tu les relis ? Parce que parfois, c'est
moi, je dirais qu'il y a un takeover complet de mon pro sur mon perso.
Ok.
Ouais.
Bon, c'est déjà, une réponse que j'ai souvent.
Ouais. Déjà, je travaille beaucoup. Et en plus, je suis un petit peu obsessionnelle. Donc, j'en parle beaucoup en dehors. Alors, parfois, j'essaye de pas trop en parler pour pas casser la tête des gens. Mais pour l'instant, mon pro, il est un peu... relégué au second plan. Mais sans que j'en souffre du tout, parce que j'adore mon pro. Alors moi, souvent, quand je parle aux gens, je dis que c'est pas forcément un goal, en fait, que ce que t'aimes devienne ton travail, parce que le travail, au départ, c'est pas fait pour ça. C'est pas forcément fait pour être ta passion ni ton lieu d'épanouissement. Donc moi, je dis souvent, il n'y a pas besoin que ce soit un goal, parce que pour moi, c'est un peu le miroir aux alouettes. Tu mets un peu les gens dans une situation d'insatisfaction permanente, quoi. Mais moi, il se trouve que c'est comme ça, et qu'en plus, ça va bien avec mon comportement. Moi, j'aime bien avoir un truc qui m'occupe, quoi. Qui m'occupe et sur lequel je peux réfléchir quand j'ai un trou ou quand... Donc, pour l'instant, je dirais plutôt ça.
Ok. On passe à la dernière partie du podcast avec des petites questions génériques. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Alors, ça dépend. Ça dépend. Mais deux gros schémas. Soit soirée toute seule. Je dis à mon copain d'aller voir des potes. Je reste chez moi, je reste dans mon lit, je lis, je regarde une série. Je commande une pizza. Enfin, voilà. Soit je sors avec mes amis. Ouais, ça, je dirais, c'est les deux gros schémas. Soit j'ai envie de me changer la tête, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de voir mes amis. Soit j'ai envie d'être
tout dépend de la paix. Le mood.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
C'est quoi ton plus grand rêve ?
Bah, mon plus grand rêve, si je pouvais avoir le même parcours que Cédric Grolet, ça me
rêve. Je te le souhaite. C'est quoi ta plus grande peur ?
Bah, que ça marche pas. Ouais.
Est-ce que t'as un livre à me conseiller ?
Ouais, j'en ai un que j'aime trop, qui est un livre pour ados, je pense. Où c'est l'histoire d'un... C'est trop chouette. C'est un monde où on a retiré tous les sentiments aux hommes. Donc, ils n'ont plus de sentiments, ils ne voient plus la couleur, ils n'ont plus de famille, c'est attribué aléatoirement, ça peut changer. Et il y a une personne... dans le monde à qui on va attribuer tous les sentiments pour qu'il se perde pas et qu'il se met à voir les couleurs, à ressentir des choses pour des gens. Et c'est la gestion de ses émotions et tout.
Trop
c'est trop bien. Ça s'appelle The Giver.
Ben, je me le note en recommandation.
Trop bien.
Trop cool. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ?
Alors, série, on a plein. Mais en ce moment, je regarde Yellow Jacket.
Ok, je connais pas.
C'est trop bien.
Ça parle de quoi ?
C'est des filles d'un lycée qui partent faire une compète de sport. Et leur avion se crash sur une île et on les retrouve plus. Et ça part complètement en couille mode survie, se bouffe entre elles. Mais c'est sympa. Okay.
Sur quelle plateforme ?
Canal.
Ok, je me le note aussi. De toute façon, on mettra les recos en description. J'ai rajouté une question pour cette nouvelle saison qui s'appelle la question reverse. Mm. On switch, tu deviens la host du podcast pour une question.
Okay.
Et la question, c'est y a-t-il une question que tu aimerais me poser ?
En fait, il me faut juste deux questions en intro.
Vas-y, je t'autorise.
la boîte, dans laquelle vous bossez tous, tu l'as lancée ou...
Ouais. En fait, nous, j'ai créé un podcast en 2017 qui s'appelle Serial Entrepreneur.
Ouais.
Et en fait, ça m'a amené à créer une agence de podcast en février dernier, de février 2022.
Ouais.
Et donc, on accompagne des entreprises, des marques et des créateurs entrepreneurs à créer et à développer leur podcast en audio et en vidéo.
Ok.
Voilà. Donc, le podcast a amené à devenir entrepreneur 4 ans après.
Ok, alors ouais, j'ai une question. Je connais pas du tout le mode de comment on se rémunère dans l'industrie du podcast.
Ouais.
Parce que c'est gratuit pour les auditeurs.
Exactement, c'est complètement gratuit pour les auditeurs. En fait, c'est un peu le même modèle que des créateurs de contenu sur YouTube. Ça va être de la sponsorisation, de la monétisation via des collaborations avec des marques. Avec des lieux aussi, comme ici avec le Soli Hotel. Et tout ça va faire que, justement, avec de la publicité, on va pouvoir monétiser le podcast, tout simplement.
Ouais, ça ne doit pas être évident, parce que... Mais il y a beaucoup de podcasts qui n'ont pas une grosse audience, quoi. Donc, ça doit mettre du temps à...
C'est un modèle, en fait, qui, aux États-Unis, a une dizaine d'années.
D'accord.
En France, je dirais plutôt 3 ans, véritablement. Il y a effectivement très peu de podcasts qui génèrent de l'argent. Je pense qu'on est, on est très peu nombreux en France. Mais effectivement, c'est complètement similaire à YouTube. Et en fait, les mêmes marques qu'on peut voir sur YouTube arrivent aussi sur les podcasts.
Ok, d'accord.
Et on est exactement sur le même modèle. Voilà.
Ok. Bon,
très simplement. Très bonne question. Il me reste 2 petites questions. C'est est-ce que tu as un entrepreneur à me conseiller pour Alors, une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode?
J'ai un copain qui s'est lancé dans un truc assez marrant. Qui est la nourriture fraîche pour animaux.
Ok.
Ça s'appelle Helmut.
Ok, trop bien.
Et c'est marrant parce que c'est pas forcément une conception française, en fait, c'est plus américain. Et lui, il a pas du tout un profil de... Enfin, au départ, il est banquier d'affaires. Il s'appelle Martial et il a lancé cette aventure et je pense que c'est assez sympa parce qu'il a vraiment un modèle de start-up... assez chouette, avec pas mal de levées de fonds et tout, très différent de moi. Moi, c'est vraiment une entreprise classique, financement bancaire, modèle hyper simple. Et lui, c'est assez 2.0, donc ça peut être intéressant. Et puis surtout, c'est intéressant de voir des gens qui montent un truc dans lequel ils n'ont pas forcément de rapport au départ.
Son nom et son prénom, c'est quoi?
Martial d'Argent.
Okay,
et
la
boîte, c'est Helmut.
Super, je me note la reco. Et la dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur?
C'est quelqu'un qui a pas peur de travailler pour un résultat dont il est pas sûr. Après, c'est le principe de la finance. Là où il y a le risque, il y a plus de rémunération potentielle. Il faut pas oublier.
Ouais.
Et il faut être prêt à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ça, c'est important de le préciser.
Ouais.
C'est un bon rappel.
Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être plus cool quand on est à son compte.
Pas forcément. Ça veut rien dire. Non, c'est. Puis je pense que c'est pas adapté à tout le monde aussi, il faut le temps de le rappeler.
Ouais,
je pense que ça va être des bons mots de fin pour ce podcast.
Ouais.
Merci beaucoup, Jade, pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu.
Très bien.
J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous tes liens en description. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, un maximum de bonheur et de réussite dans la suite de ton aventure. Merci beaucoup, Jade. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.